Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Dit pasteur, elle m'a dit, si jamais vous voulez, elle dit, c'est une dame qui travaillait à la télé, elle était en contact dans le monde sportif avec des athlètes professionnels et tout ça. Et elle nous dit, pasteur, si vous voulez, je suis en contact avec un joueur de hockey professionnel, c'est un multimillionnaire. Il a un appartement de luxe sur la mer, dans le sud, et puis il pourrait vous faire un très très bon prix, presque rien, il demande juste un peu parce que il est obligé, c'est une copropriété avec d'autres, c'est tout un grand campus, très luxueux, et il est obligé de vous mettre un petit prix quand même, et notre budget était de 300 euros pour l'hébergement, pour la semaine, tout ça, et sa location était de 350 euros. Et ma femme a manqué un petit peu de foi. Elle a dit non et on peut pas le prendre. Alors elle est venue vers moi. Elle a dit ben tu écoute, j'ai refusé. Il faut vraiment respecter le budget. Ma femme elle est très rigoureuse. Et puis donc les 50 euros, l'appartement de luxe on l'a pas eu. On s'est rabattu sur du camping. On a emprunté des sacs de couchage, des tentes et tout. On est parti comme ça dans le sud. Et on avait loué un petit camping qui correspondait à notre petit budget. On est arrivé là après 32 heures de route. Sans dormir, je vous raconte pas, on est arrivé dans un parc industriel, un camping dans un parc industriel, entre une usine qui fabriquait des navires, des gros bateaux, donc les soudeurs, les bruits de métaux, vous pouvez imaginer la scène et tout. Et de l'autre côté, il y avait une autre usine, on était entre les deux dans ce petit camping, on s'est dit, on va pas dormir là, c'est pas des vacances. Donc on a annulé la réservation, on s'est dit, on va aller sur le grand boulevard qui s'appelle Ocean, le boulevard de l'océan, là-bas en Floride, on s'est dit, on va faire tous les hôtels, mais vous pouvez imaginer que la seule semaine de vacances de Pâques, tous les hôtels sont pleins. Donc, on a un petit peu vécu ce que Jésus a vécu à Noël. On s'est pris, on était fatigués, mais épuisés. On a garé la voiture et en plein milieu du boulevard, comme ça, et on s'est dit, ma femme a dit, moi, je vais au nord, toi, tu vas au sud. Et puis, on a fait tous les hôtels. On s'est retrouvés 3 heures plus tard, aucune place dans aucun hôtel. Je me souviens, j'étais cassé, et là, j'avais les nerfs à fleur de peau, et j'étais énervé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive et tout. Et à un moment donné, on est parti avec la voiture dans les rues derrière et puis on s'est retrouvé dans un quartier moche. Et puis tout à coup, on a vu un vieux motel. Avec, vous savez, c'est quoi? Il y a des hôtels, il y a des motels, mais il y a des motels et il y a des motels moches, tu vois. Et lui, c'était un motel moche. Je crois même que c'était écrit « Bienvenue au motel moche », tu vois. Et puis, il y avait une affiche avec un néon qui marchait plus, un peu comme dans les films, qui marchait pas et tout. Et puis, ma femme a regardé le budget, elle a dit « Ben, ça correspond à notre budget ». Et puis, tout était hors de prix, c'était la mauvaise semaine pour partir en vacances. Et puis, finalement, on est arrivé là et puis j'ai dit « Ben, on n'a pas le choix, on va prendre celui-là ». Et puis, tu essaies d'être positif, hein, tu dis « Ben, c'est joli ». Et tout. On est rentré dans la chambre et c'était décoré 1952, tu vois. Et puis déjà, il y avait une poussière dans la chambre. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, ouais, c'est beau, c'est un peu style rétro et tout. Ma femme, elle me regarde comme ça. On arrive, il y avait une piscine. Chérie, il y a une piscine, c'est extraordinaire. Une piscine. On est arrivé, la piscine, elle faisait une piscine Efferalgan, tu vois. Piscine aspartame, c'était tout blanc, on voyait pas le fond de la piscine, elle était craquelée et tout. Et j'ai dit à ma femme, je vais te montrer. J'ai dit, il y avait une petite dame asiatique qui tenait ce motel. Et j'ai dit, la piscine, c'est bon, on peut se baigner. Oui, yes. Elle disait yes. Je crois que c'est le seul mot en anglais qu'elle savait dire, c'était yes. Alors, j'ai dit, ça coûte combien? Yes. On peut aller dans la piscine? Yes. Je dis, c'est propre? Yes. Et je dis à ma femme, je dis, ben, tu vois, j'ai plongé dans la piscine, je me suis pris un goût, je suis sorti en courant, je sais pas, je me demande s'il n'y a pas des trucs qui m'ont poussé sur le corps et tout. Et toutes nos vacances étaient, comme on dit, tombées à l'eau. Et un jour, dans ce grand deuil, ma femme et moi, on a pris notre vieille voiture, puis on s'est dit, on va aller se balader, on va aller découvrir la région. On est arrivé dans un quartier très luxueux. On a vu des voitures. Là, c'était pas des bagnoles ou des bazous. Là, c'était des voitures de luxe. On s'est dit, waouh! Et tout à coup, ma femme a dit, attends un instant. Elle tire de son sac à main l'adresse qui nous avait été offerte. Ah, vous vous souvenez, hein? Et ma femme a dit, mais attends, elle dit, c'est ici? C'est ici? Elle dit, mais on est à quelques portes? Et puis on continue, on voit ce complexe luxueux d'appartements avec des valets et tout. On pouvait pas rentrer comme ça, des terrains de tennis et puis et les gens et tout. On s'est dit, oh là, on était devant et on pouvait pas rentrer parce qu'on avait refusé. Et j'aimerais vous dire ceci ce matin, j'ai une offre à vous faire. Si vous la refusez, toute votre vie, vous allez le regretter. C'est une offre d'une valeur inestimable. J'aimerais vous parler ce matin. Vous pouvez rentrer à la maison, c'est libre à vous. Mais c'est une offre qui peut changer votre vie pour toujours. Que vous soyez ici pour la première fois, que vous soyez ici pour la centième fois, que vous soyez tout nouveau face aux choses de la foi, ou que vous soyez chrétien depuis 45 ans, j'ai une offre à vous faire. J'aimerais vous parler d'un sujet qui percute ma vie, d'un sujet qui a un impact très profond dans ma vie présentement. C'est la valeur infinie du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai cette vive impression en étudiant la parole de Dieu, en étant révélé, en m'approchant de Dieu, qu'il y a des trésors qui nous ont été cachés, mon frère, ma sœur. Il y a des vérités dans ce que Jésus a fait à la croix pour nous qui nous ont été cachés, que nous avons besoin de découvrir, qui sont extraordinaires. Maintenant, je n'ai aucun embarras à vous parler de sang à l'Église, parce que je sais qu'on est dans une société raffinée, propre, qui aime pas parler de sang, ça fait un peu malpropre parler de ces choses-là. Mais quand je regarde l'actualité autour de nous, je n'ai aucun embarras à vous parler de sang, parce que du sang, il y en a partout. Il y en a de plus en plus sur les jeux vidéo, avec Assassin's Creed, avec d'autres jeux vidéo d'une grande violence, qui même les concepteurs de jeux vidéo ont programmé que ça gicle sur l'écran. Je n'ai aucun embarras à vous parler de sang, parce que du sang, il y en a comme jamais à la télé, mais dans la télé-réalité, même aux infos, on voit que les caméramans qui vont directement au front cherchent à aller se braquer leur caméra sur le sang directement, parce qu'il y a des gens qui veulent voir du sang. Je n'ai aucun embarras à vous parler de sang, parce que comme jamais, on a eu des téléséries à la télé qui parlent de sang. Je sais pas si vous avez remarqué, je crois que c'est une génération de vampires. Avez-vous remarqué? Il y a des vampires partout. Ce matin, je ne vais pas vous parler d'un vampire qui vient chercher du sang. Je vais vous parler de quelqu'un qui a donné son sang, qui a donné sa vie, et il a quelque chose d'inestimable, un prix extraordinaire, un héritage incroyable. Et nous allons voir ensemble deux choses. Nous allons voir que par son sang, en allant à la croix, Jésus a premièrement opéré un précieux nettoyage. Et il a légué un précieux héritage. Dès le jardin d'Éden, la première action de Dieu quand l'homme a péché, a fauté, on va voir, il va y avoir effusion de sang. Partout à travers la parole de Dieu, dans tous les livres, on voit l'importance de cela. Les prophètes en ont prophétisé. On voit que Jésus-Christ, partout, à travers son ministère, sa vie sur terre, Jésus avait les yeux sur ce moment. Il avait les yeux complètement rivés là-dessus. Personne ne pouvait le dérouter. Il était venu pour ce moment à la croix où il allait donner sa vie et nous léguer un précieux héritage, où il allait opérer un nettoyage extraordinaire dans notre esprit, dans notre conscience, dans notre mentalité. Jésus est venu. On voit partout à travers les enseignements du Nouveau Testament, dans ce que Paul dira, dans ce que Jacques, dans ce que Pierre, dans ce que Jean dira, que constamment le Nouveau Testament nous appelle à avancer, mais en regardant derrière. C'est lorsque tu regardes à ce qui a été fait pour toi que tu peux vraiment avancer. C'est lorsqu'on découvre le vrai texte, le cœur des réformateurs, qu'on voit qu'il y avait toujours un retour à la croix, un retour au sang de Jésus. Les réformateurs, les puritains, les revivalistes, et même encore aujourd'hui, chacun d'entre nous devrions considérer que c'est là qu'il faut chercher. C'est là qu'il y a un trésor de révélation extraordinaire pour ta vie, c'est à la croix. Premièrement, à la croix, Jésus a opéré un précieux nettoyage. Nous allons lire ensemble ce texte ce matin, si vous le voulez bien, dans Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9. J'y vais très rapidement. Et le verset 12. L'auteur aux Hébreux nous parle de ce que Jésus a fait pour nous. Et parlant de son sacrifice à la croix, il dira ceci, que une fois qu'il est mort, qu'il est ressuscité, il est monté au ciel. Et là, Hébreux 9, 12 nous dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Dieu avait établi un système à travers le temple de Jérusalem où une seule fois par année, certains d'entre vous c'est du redondant, mais pour d'autres c'est tout nouveau, une seule fois par année, il y avait le grand sacrificateur d'Israël qui pouvait se présenter, entrer dans le lieu très saint, là où était la présence de Dieu. Il venait avec le sang d'un agneau limpide, un agneau sans tache. Il venait présenter ce sang. Et partout à travers toute l'histoire de l'Ancien Testament, tout cela pointait vers Jésus. Et mon frère, ma sœur, il n'a pas suffi à Jésus de mourir à la croix pour nous, de ressusciter le troisième jour et de monter au ciel. L'auteur aux Hébreux nous dit, cela n'a pas été suffisant pour Dieu. Il a fallu pour Jésus se présenter non seulement comme le vainqueur de la mort, non seulement comme le Fils de Dieu ressuscité, non seulement comme parfait devant Dieu, comme un parfait sacrifice pour nos péchés, mais il a fallu que Jésus vienne. Et la Bible dit, c'est là que c'est un peu difficile pour nous de comprendre dans notre société tellement raffinée, on veut pas parler de sang. Dans notre système de justice où il n'y a pas de sang aujourd'hui, où Jésus est venu et la Bible dit qu'il a présenté son sang. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie ça. Le sang représente la vie d'un homme. La Bible dit que la vie est dans le sang. Quand Jésus a présenté son sang, qu'il est venu vers Dieu, au trône de Dieu dans le ciel, et qu'il a présenté son sang, en fait, il a présenté sa vie à son Père. Il a dit à son Père en présentant son sang, « J'ai donné ma vie. » Maintenant, il a donné pourquoi? Il n'avait pas besoin de donner sa vie pour lui-même, il était parfait. Il est venu, il a travaillé, il a versé son sang pour nous. C'est pour nous qu'il a travaillé. C'est pour toi qu'il a travaillé. Il est monté au-dessus de tous les systèmes de justice de ce monde parce qu'il y a un système qui domine sur tous les systèmes de justice de ce monde et c'est la justice de Dieu. Et Jésus est venu présenter son sang. Il a présenté, dans son sang, il y avait sa vie. Il a dit, j'ai présenté ma vie. C'est pas n'importe quelle vie. C'est pas la vie d'un homme bon qu'il a présenté. C'est la vie du Fils de Dieu. Et c'est à vous maintenant de le croire ou de ne pas le croire. C'est le grand débat d'humanité. Il y a des chrétiens qui sont en train de mourir présentement parce qu'ils ont osé dire que Jésus était le Fils de Dieu. Mais c'est notre conviction, c'est notre expérience aussi avec Dieu. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu parfait, sans tâche. Et qu'il est venu se présenter devant Dieu. Il a présenté son sang, mais pour nous. Sa vie pour nous. Il s'est acquis nos vies par son sang. Mais aussi son sang représente tout son travail. Dans le sang, il y a l'image de tout ce que Jésus a traversé. Le rejet, la trahison, l'injustice, sa mort, son sacrifice. Il a persévéré à la croix et tout ce que Jésus a fait comme travail est inclus dans son sang qu'il a présenté à Dieu. Pourquoi le sang? Parce que Dieu a un système de justice. La justice des hommes d'aujourd'hui, toute la plupart des justices qui nous entourent aujourd'hui, des systèmes judiciaires, sont des systèmes qui sont fondés sur une pénalité, une peine. Si on prend l'exemple d'un homme qui va commettre un meurtre, il va purger une peine. Mais une fois que sa peine est purgée, il est libéré, mais justice n'a pas vraiment été rendue. Parce que la vraie justice demande de l'équité. Et dans le système de justice de Dieu, puis je suis pas en train de vous dire que nos systèmes de justice sont pas bons, mais il y a un système de justice au-dessus des systèmes de tout ce monde. Les hommes demandent juste une pénalité, mais Dieu demande vengeance pour le mal qui a été commis. C'est biblique. Et Dieu demande que ça soit rendu. Et Dieu demande qu'il y ait une équité, que nous soyons quittes. C'est pour ça que Dieu avait dit œil pour œil, dent pour dent. Et si tu ne peux pas restituer ce que tu as volé, si tu as détruit, tu seras détruit. C'est ça la loi de Dieu. Il faut que tu sois quitte. Si tu as arraché un œil, on arrachera ton œil. Et Dieu dit, celui qui a versé son sang verra son sang versé. Maintenant, ce qui est encore plus grave pour nous, c'est que dans la justice de Dieu, la pensée est comme l'action. Dieu dit, si un homme pense convoiter une femme qui n'est pas la sienne, c'est comme s'il avait commis l'adultère. Donc, si un homme pense le meurtre pour Dieu, il a commis le meurtre. Si un homme pense violence, si la violence dort en lui, aux yeux de Dieu, il a été violent, il a commis un meurtre, il a versé le sang, son sang sera versé. Maintenant, la Bible dit que Jésus n'est pas venu abolir cette loi. Il n'est pas venu la tasser, cette loi, la mettre de côté. La Bible nous enseigne que Jésus est venu accomplir cette loi. Écoutez-moi bien, il y a seulement deux raisons au monde pour lesquelles le sang peut être versé. Le sang est versé par méchanceté ou par justice. Ce qui rend la valeur inestimable de ce que Jésus a fait pour toi et moi à la croix, c'est que dans son sang, les deux se sont rencontrés. Jésus n'a pas été livré parce qu'il était méchant, contrairement à celui qui a versé le sang par méchanceté. Il a été livré alors qu'il était juste. Jésus a subi l'inverse de la justice de ce monde. Suivez-moi bien ce matin. Si vous comprenez ceci, c'est extraordinaire. Jésus a subi pour nous l'inverse de la justice de ce monde. Dans la justice de ce monde, on prend un homme méchant et on exerce la justice sur lui. Ce que Jésus a subi à la croix, si vous avez lu le récit, il a subi l'injustice alors qu'il était juste. ça a été inversé. Mais dans la justice de Dieu, Jésus a subi, il a absorbé, il a résisté. Et à n'importe quel instant, il aurait pu répondre à tout ce système d'injustice, de pharisiens, de criminels organisés qui n'en pouvaient plus de voir Jésus leur voler les foules à cause qu'il leur prêchait les gens aller vers lui et que les synagogues se vidaient. Alors la Bible dit qu'il respirait et il méditait de le tuer. Finalement, ils l'ont amené à mourir. Mais Jésus, à n'importe quel instant, aurait pu ne plus résister à cela, aurait pu le rendre. Mais dans sa bonté infinie, il a résisté jusqu'à la mort. Et dans sa mort, la justice de Dieu et la méchanceté des hommes se sont rencontrées. Et son sacrifice a été parfait. Mais écoutez-moi bien. Son sacrifice a été tellement parfait que lorsqu'il l'a présenté à la justice de Dieu, la Bible dit qu'il est entré une fois pour toutes et pour toujours. Ce que Jésus a fait à la croix pour toi et moi a été suffisant pour apaiser lui qui a été parfaitement agréable à Dieu, qui a résisté jusqu'à la mort, est venu devant Dieu. Ça a été suffisant une fois pour toutes et pour toujours à un tel point que, écoutez-moi bien, que Dieu qui sait tout sur le passé, le présent et le futur, Dieu qui sait tout et qui voit tout, par le sacrifice de son Fils, a dit qu'il allait oublier. Le mal commis par un homme ou une femme qui vient se cacher dans ce que Jésus a fait pour lui. Et tout ce que Dieu nous demande, c'est de reconnaître en son Fils un sauveur pour nos péchés, pour nos erreurs commises, pour notre honte, pour nos regrets, pour nos faillites, pour nos manquements. Et la Bible dit que c'est tellement incroyable ce que Jésus a fait pour nous, que même si tu es un croyant, même si tu es un chrétien, tu vas encore faillir parfois. Le Saint-Esprit travaille à nous amener de gloire en gloire à la Bible. Et cela veut dire qu'il travaille à nous amener à être de meilleures personnes. Un meilleur père de famille par la puissance du Saint-Esprit, tu peux devenir. Un meilleur citoyen. Voyez-vous, je crois que le meilleur citoyen dans toutes les sociétés du monde, c'est le chrétien, le vrai chrétien. Le vrai chrétien paye ses taxes. Personne dit amen. Le vrai chrétien amène l'amour, il amène la paix, il amène le pardon autour de lui. Et alors que le Saint-Esprit travaille ça, quand même sur son chemin, le chrétien va faillir parfois. Il va y avoir des moments où tout à coup il va s'énerver. Mais la Bible dit que le sang de Jésus est perpétuellement et pour toujours devant Dieu, comme une image qu'il couvre, si puissant que Dieu dit même pour les fois que tu vas faillir. C'est pas pour justifier que tu fasses le mal demain. C'est pour te rassurer que lorsque tu failliras, Jésus sera encore là pour toi et qu'il tient et qu'il est là et qu'il est pour toujours. Il est rentré une fois pour toutes et pour toujours. Peu importe, écoutez bien ceci, peu importe si un homme peut évincer la justice, peiner. Voyez-vous, parfois on entend des détenus qui ont fini leur peine et qui disent « J'ai payé ma dette envers la société, mais pas envers Dieu. » Pas envers Dieu, pas encore. La justice de Dieu est là. Peu importe si un homme peut évincer la justice, peiner, payer, fuir, s'étourdir, banaliser, ridiculiser, il est toujours rattrapé par sa conscience. Sa conscience le rattrape. Et voyez-vous, la conscience, j'appelle cela le système nerveux de ton esprit. Comme ton système nerveux sent tout, enregistre tout, il y a un système nerveux dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit, et c'est ta conscience. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux être dans une nation où on a banalisé l'infidélité comme n'importe quoi, mais devant Dieu, tu sais que c'est mal. Ta conscience te rattrape, ta conscience te le dit. Ta conscience voit tout, elle enregistre tout, et il y a des moments où elle te rattrape. Ta conscience, c'est ce système nerveux spirituel. Ta conscience, la conscience rappelle à l'homme non seulement ce qu'il fait, la conscience rappelle à l'homme ce qu'il est. Elle lui dit le soir quand il est dans son lit qu'il n'entend que finalement toutes les voix sont parties, que finalement toute la tornade de la journée est terminée, qu'un homme se pose la tête sur son oreiller et que tout à coup il est calme, la conscience le rattrape. Elle lui rappelle qui il est. Et voyez-vous, il y a des versets dans la Bible qui disent, Dieu dit à travers l'Ancien Testament, il dit, nombre, il dit, ton péché te retrouvera. C'est incroyable. C'est-à-dire, ne t'imagine pas que tu peux faire un péché, t'en aller, fuir, et que ça te reviendra jamais. Dieu dit, ton péché va te retrouver. Ça va te revenir un jour. La Bible dit, ce qu'un homme a moissonné, il va le récolter. Et il y a des gens, je suis pas venu pour vous tourmenter, je suis venu pour vous amener la paix. Je rencontre des gens dans ma vie, à travers mes voyages, mes prédications, un peu partout où je vais. Je rencontre des gens parfois qui viennent me voir après une réunion et je vois qu'ils n'ont pas trouvé la paix en Jésus. Ils ont fait quelque chose il y a 25 ans ou ils ont manqué il y a 25 ans. Ils traînent encore cette conscience qui vient vers eux et les rattrape. Ils ont peur de moissonner ce qu'ils ont semé. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais écoutez-moi bien. Il faut que nous puissions découvrir à quel point le sang de ce que Jésus a fait à la croix pour nous est si précieux pour le Père. Et c'est lorsque les chrétiens vont découvrir, et c'est lorsque les hommes vont découvrir à quel point ce que Jésus a fait à la croix est si précieux pour le Père, nous saurons où mettre nos yeux pour trouver la paix. Écoutez-moi bien, si le sang de Jésus est si puissant dans le ciel, il peut l'être dans ton cœur. Mais d'une seule façon, comme Dieu a accepté ce que son Fils a fait, il faut que tu acceptes ce que Jésus a fait. Il faut que tu acceptes en Jésus-Christ de dire « Le cercle vicieux, la condamnation a été brisée. Ce qu'un homme a semé, ce que j'ai semé comme mal, je ne le moissonnerai pas. Jésus l'a moissonné pour moi. C'est écrit « Ton péché te retrouvera, mon péché ne me retrouvera pas. » C'est écrit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Eh bien, le salaire de mon péché, ce ne sera pas la mort parce que Jésus subit la mort à ma place. Il s'est mis. Voyez-vous, l'Épître aux Romains dit que Jésus, Dieu n'a pas épargné son propre fils pour nous. Et le sens ici du mot, c'est comme si tu avais un routier qui arrive, un gros semi-remorque qui arrive à 130 km à l'heure, qui déballe une côte. Tu es là, tu vas te le prendre en pleine face et Dieu envoie son fils. Le fils de Dieu t'enlève et c'est lui qui se prend le camion. Et il meurt à ta place. Et Dieu dit « Moi, j'ai accepté que mon fils verse son sang, sa vie pour toi. Tout ce que je te demande, c'est de l'accepter. » Et lorsqu'un homme ou une femme l'accepte, eh bien là, elle trouve la vraie paix intérieure. Parce que voyez-vous, la conscience, elle nous rattrape toujours. La conscience rattrape une mère qui a manqué envers ses enfants. Une mère, un homme qui a été dans le mensonge. La conscience rattrape la violence parfois qui dort en nous, le manque d'amour. Mais en Jésus-Christ, ce qui est extraordinaire, c'est que si nous croyons, eh bien, ne nous rattrape pas. Il y a un jeune homme qui est passé dans ma vie il y a quelques années. Il a marqué ma vie. Samuel venait à l'église, il venait au groupe de jeunes. Et ses parents étaient chrétiens, mais lui n'était pas vraiment né de nouveau. Je ne rentrais pas là-dedans ce matin, j'en ai parlé cette semaine avec Laurent. Mais il y a une grande différence entre naître de nouveau et se convertir. Un bouddhiste peut se convertir à une autre religion. Un catholique peut se convertir au bouddhiste. C'est une conversion. Tu peux changer de monnaie. Tu peux changer la monnaie du dollar américain pour de l'euro. C'est pas ça être chrétien. Jésus n'a pas dit à Nicodème, il faut que tu te convertisses. Il a dit, il faut que tu naisses de nouveau. C'est une expérience spirituelle. La monnaie de Dieu n'est pas de ce monde. On ne peut pas se convertir dans la monnaie de Dieu, dans le taux de change de Dieu. C'est une nouvelle naissance. Et ce jeune homme avait grandi, évolué dans une famille chrétienne. Il s'était converti au christianisme, j'en suis convaincu, mais il n'était pas né de nouveau en Jésus-Christ. Alors, il sortait dans les boîtes, il venait à l'église, il venait pas à l'église. Et je priais pour lui, j'étais très inquiet pour lui. Une longue histoire que je vais rendre très, très courte, ça a duré 2-3 ans. Je priais pour lui. Et à un moment donné, eh bien, j'ai reçu un coup de téléphone à la maison. Il m'a dit, Christian, tu veux aux infos, au bulletin d'information, ce qui s'est passé? Je dis non. Il dit, Samuel a... Il est à l'hôpital et puis en plus de ça, ben il a un mandat d'arrêt sur sa vie. Il a tué un homme. Je dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Et finalement, j'ai regardé sur Internet, ils avaient rediffusé le bulletin et tout un accident. En fait, Samuel, dans une petite route de campagne, à 2h du matin, bondissait avec sa voiture à une vitesse effrénée. Il y avait de l'alcool dans la voiture. Il a grillé un feu rouge. Il y a un homme qui rentrait de travailler, un père de famille, et il a tué l'homme. Il y a eu un accident de voiture incroyable. Il a eu à peu près 200 fractures sur son corps. Toute une histoire, vous pouvez trouver sur Internet aujourd'hui. Quand je suis arrivé à l'hôpital, il était amnésique, il était attaché. C'est un grand gaillard costaud, Samuel. Et il était attaché. Quand il m'a vu, il était dans une telle colère, il voulait tellement se lever que même avec ses fractures, il a plié le lit de l'hôpital pour se lever devant moi. Les médecins sont venus, pof, il l'a endormi. Ils m'ont dit, pasteur, revenez demain. Je suis revenu le lendemain. Et j'ai commencé à passer du temps avec Samuel, à aller le visiter, à le voir. Et Samuel a découvert la différence entre approuver les valeurs chrétiennes et inviter Jésus dans son cœur. Il a donné sa vie à Dieu. Et le Seigneur l'a visité. Il a commencé à avoir une telle foi de ce que Jésus a fait pour lui à la croix. À un moment donné, dans une réunion de jeunes, un vendredi soir, je me suis retourné, je priais, il y avait des jeunes qui priaient devant, c'était merveilleux. Je me suis retourné, Samuel était à genoux dans son coin, humblement, il pleurait, il priait. Et puis la semaine d'après, je suis allé avec lui, on est allé manger ensemble après la réunion de jeunes, casser la croûte. Et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Il a commencé à me regarder et dire, « Christian, il y a une paix. Il y a une paix malgré ce qui est arrivé, malgré ce que les erreurs que j'ai faites. Il y a une paix, tu ne peux pas savoir. » Il dit, « Jésus a payé pour moi. Jésus a payé pour moi. » Puis tout à coup, il me regarde avec un sourire et il dit, « Écoute, le Seigneur m'a visité et il m'a fait une promesse. Il m'a dit qu'il n'y aurait pas de procès. » Là, je l'ai regardé au restaurant et j'ai commencé à m'inquiéter pour lui. Parce que j'ai vu des gens dans ma vie qui font un délit religieux. Ça, c'est pas une blague. Hein? Je commençais à m'inquiéter qu'ils fassent un délit religieux. J'ai dit, mais Samuel, j'ai dit, il y a une famille qui a porté plainte contre toi, la gendarmerie, tu as un procès qui t'attend, tout ça. Puis il m'a dit, écoute, Christian, je le dis, il n'y aura pas de procès, j'ai la paix. Et là, je m'inquiétais. Et il dit, le Seigneur m'a dit qu'il allait me relever. Il marchait, il était dans un corsage, hein, de partout. Et il m'a dit, le Seigneur va même rétablir mon corps et tout. Puis j'ai dit, mon pauvre Samuel, j'ai rien dit. J'avais peur de le décevoir, mais j'ai rien dit. Je lui fais juste t'assurer, mais Samuel, si jamais il y a un procès, et si jamais tu es condamné, est-ce que tu vas aimer Jésus quand même? Ah, il dit, même si je vais en prison, Christian, il dit, ce qui est le plus merveilleux, c'est, il y a une paix. Il y a une paix. J'ai accepté que Jésus a payé pour mes erreurs. Voyez-vous? Et finalement, pour faire une longue histoire courte, il n'y a pas eu de procès. Le procès était reporté, un an, deux ans, trois ans. Et finalement, la famille a décidé de ne plus porter plainte. Dans son deuil, a décidé d'abandonner le procès, ne voulait pas vivre de procès. Il y a eu des erreurs d'enquête des policiers, des graves erreurs, des gendarmes, tout ça. Donc, les preuves, si, ça, il y avait des choses. Ils avaient fait une prise de sang pour son taux d'alcool, mais étant donné qu'il était mineur, ils avaient fait la prise de sang sans demander aux parents l'autorisation, donc la prise de sang était plus valable. Et finalement, tout le procès a été avorté. La famille lui en veut plus, la famille lui a pardonné. Quand j'étais au Canada, je suis allé l'été dernier, chaque année que je vais au Canada, je le vois. Il vient vers moi, marié, avec sa femme, son petit bébé dans ses bras. Une joie, mais écoutez-moi bien, une paix. Parce que ce que Jésus a accompli à la croix, il l'a accepté. Et le sang de Jésus ne salit pas, le sang de Jésus nettoie. Et si le sang de Jésus était si puissant dans le ciel pour apaiser la justice que Dieu demande, qui est une justice parfaite, eh bien, bien plus forte raison, le sang de Jésus peut opérer dans ta vie, mon ami. Un tel nettoyage que, indépendamment de ce que tu as commis dans le passé, indépendamment de ce que tu as vécu dans le passé, indépendamment même de ce que tu as subi dans le passé, parce que même si tu es une victime, le désir de vengeance et de colère n'est pas de Dieu. Et il y a une seule personne qui peut amener une paix dans nos vies. Et il y a une seule façon de saisir ce que Jésus a fait pour nous. Écoutez-moi bien, c'est mystique ce que je vais vous dire ce matin. Mais il y a un petit peu de mystique quand même dans la Bible. Hein? On essaie d'être pratique, on essaie d'être terre à terre. Mais l'auteur aux Hébreux nous invite à lever les yeux. On regarde trop ici. Il faut qu'on regarde un petit peu plus en haut. Et l'auteur aux Hébreux t'invite à lever tes yeux régulièrement et à voir par la foi. L'apôtre Paul appelle cela les yeux du cœur. Et à voir que Jésus est là devant Dieu et que constamment, perpétuellement, pour l'éternité, l'auteur aux Hébreux nous dit, il présente sa vie, garante de ta vie. Maintenant, je termine avec ceci ce matin. Mon deuxième point en terminant. Premièrement, il a opéré un précieux nettoyage. Mais en terminant aujourd'hui, il a légué un précieux héritage. Voyez-vous, il y a deux choses pour une parfaite justice. Pour que justice soit rendue, il faut qu'on soit quitte. Jésus nous a rendus quitte. Jésus s'est fait meurtrier pour le meurtrier. Mais écoutez-moi bien, la vraie justice ne demande pas seulement qu'on soit quitte. La vraie justice demande qu'il soit redonné ce qui a été pris. Comprenez-vous? Tu ne peux pas juste dire, ben, j'ai volé 30 millions à la banque hier, je vais purger ma peine, après je vais toucher les 30 millions que j'ai volés. Il faut restituer. Avez-vous déjà remarqué que la première personne de l'humanité qui s'est fait voler, c'est l'homme? Satan a menti. Il a volé à l'homme son lien avec Dieu. Le premier qui a été volé, trompé, c'est l'homme. Jésus est allé à la croix pour nous rendre ce qui nous a été pris. Nous aussi, on a subi une injustice. On a été séparés de Dieu. Et regardez bien maintenant ce que l'auteur aux Hébreux nous dit. Il nous dit, ça paraît à l'écran, « Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage. » Tu sais, dans ton cœur, il y a une voix de Dieu qui t'appelle à venir, à marcher avec lui. Et la Bible dit, « Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. » Regardez-moi, je termine avec ceci. Dans un instant, on va prendre la scène en terminant. Très, très simple. La Bible nous dit, non seulement Jésus est allé à la croix, il est mort pour toi, mais Jésus est un testateur. Un testateur écrit un testament qui lègue un héritage. Jésus a payé notre dette, mais il a laissé un héritage derrière. Et la Bible dit qu'une fois, et là, c'est tellement simple, ça pourrait être compliqué, mais je vais essayer de le rendre très, très simple. La Bible dit que Jésus est monté au ciel, c'est la prochaine image, la prochaine diapo qui apparaît, il est monté au ciel et regardez ce qu'il a fait pour nous. Presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Il était donc nécessaire puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. Les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices excellents, plus excellents que ceux-là. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de la main des hommes et imitation du véritable. Il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant Dieu. Le temps me manque de vous expliquer ce verset, mais je vais le rendre très simple. J'ai jamais compris de ma vie. C'est-à-dire, oh, un pasteur, je suis franc avec vous. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Il est écrit que Jésus est monté au ciel et qu'il a mis son sang sur des biens célestes. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Jusqu'à temps qu'alors que j'étais dans ma tournée dans le sud, le Seigneur, dans son amour, a ouvert mes yeux. Vous savez ce que Jésus a fait? Son sang, c'est sa vie. Son sang, c'est son travail. Jésus est allé au ciel et il a mis sa vie et son travail sur toutes les promesses de Dieu. Il se les est acquises. Maintenant, on a un problème ici ce matin. Parce qu'avant de dire « Amen », on a un problème. Jésus les possède déjà toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce qu'il est allé les acheter s'il les possédait déjà? Pour toi. C'est pour toi qu'il a travaillé. Et est-ce que tu vas laisser son travail en vain? Lui qui possédait tout est venu, s'est humilié, a donné sa vie, a légué un héritage, est remonté au ciel et par son sang, a mis son sang sur tout. A dit, la paix, je la prends pour lui. Le pardon, je le prends pour lui. La protection, je le prends pour elle. Une direction pour sa vie, je le prends. Un plan, je le prends. L'amour de Dieu, je le prends. Qu'il soit adopté avec nous, Seigneur, mon Dieu, mon Père, je veux qu'il soit adopté, je prends l'adoption, je le prends. Qu'il y ait une éternité, je le prends. À travers tous les soucis de ce monde, je veux que tu le gardes, je le prends. Alors que 1 000 tombent à notre droite et 10 000 à ma gauche, Seigneur, lui, il met sa foi en nous, mon Père, mon Dieu, c'est ça. La Bible dit que Jésus a parlé comme ça, c'est écrit dans les psaumes. Je le prends, je prends tout pour eux. C'est ça que Jésus a fait. Quelle image! C'est comme si Sébastien, ce matin, avec son beau costume fermé, bien attaché, vient se présenter devant Dieu. Il se présente devant Dieu, mais Dieu le voit tel qu'il est. Il se présente avec ses bonnes œuvres. Je suis un bon citoyen. Je travaille pour ma femme, mes enfants. Et blablabla, blablabla. Bla, bla. Et à travers tout ça, Dieu dit non, 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 non. Moi, je te vois tel que tu es. Et là, Dieu dit, on va parler des vraies choses. Aha! Et Dieu dit, Sébastien, je te vois tel que tu es. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu comme ça. Et Jésus arrive. Et Jésus dit, moi je le prends. Moi je le prends ce qu'il fait. Je vous fais un petit coup de théâtre, hein? Et Jésus dit, toute sa, vous savez, Dieu dit, votre justice, c'est comme des haillons hein, devant moi, tachés. Tu ne peux rien offrir à Dieu. Mon ami, tu ne peux rien offrir à Dieu. le meilleur de toi-même n'est pas accepté de Dieu. Il faut que tu en finisses avec ça et que tu acceptes que Jésus prend ta place. Et Jésus a détruit ça à la croix. C'est fini. Dieu dit, j'ai oublié. Et Jésus remonte au ciel. Il va présenter son sang à Dieu. Mais ça finit pas là. Il t'a laissé. Il t'a laissé un héritage. Il t'a laissé qu'il est lui. Et il t'invite à le prendre. Tu vois? Il a opéré un nettoyage. Il n'y a rien, vous savez, vraiment détruire les choses, c'est de les nettoyer. Jésus a tout détruit à la croix et il nous a laissé qui il est. Il est temps qu'on entre dans ce que Dieu a pour nous. C'est un bon moment pour prendre la Sainte-Cène, hein? Amen. On vient, on prend la Sainte-Cène ensemble ce matin. On va se lever ensemble. Hallelujah. J'invite Michael à s'approcher avec les musiciens. Hallelujah. Precious God. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, hallelujah. Merci. Merci pour la valeur infinie de ton sang, Seigneur. Merci parce que dans ton sang, il y a ta vie, Seigneur. Tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Et Seigneur, tu veux ouvrir les yeux d'un homme ce matin, Seigneur. Tu veux ouvrir les yeux d'une femme ce matin, Seigneur. Et tu veux les inviter à considérer ce que tu as fait, ce que tu as payé, Seigneur. Tout est accompli. Tout est fini, Seigneur. Le travail est complet, Seigneur Jésus. Et nous venons devant toi ce matin, Seigneur. Hallelujah.